On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans, au cinéma. Mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signée « Tout avec presque rien ». On a coutume de dire que la plupart des contes de notre enfance ont terminé leur voyage au pays de l'oralité lorsque Charles Perrault les a consignés par écrit sous le règne du Roi Soleil. Savez-vous qu'une cinquantaine d'années avant lui, un autre habitué des cours royales en avait fait autant? Il s'appelle Giambattista Basile. Il est au service de la Sérénissime République de Venise. Nous ne savons pas grand-chose de sa vie, si ce n'est qu'avant tout, il est le frère d'une très célèbre cantatrice, Adriana Basile, véritable muse appelée auprès des plus grands de ce monde. Elle permet à son frère de fréquenter les cercles culturels les plus brillants de son époque. C'est le temps de la commedia dell'arte. On dit que Giambattista Basile a côtoyé l'académie des oisifs et celle aussi des extravagants. Le simple nom de ces académies nous en dit long sur la douce folie de cette période de l'histoire. Hey, amici! Giambattista Basile est né à Naples et il est très attaché à ses racines. Naples, l'extravagante, la bruyante, la bigarrée, ses rues ressemblent à un joyeux chaos. Les Napolitains chantent, crient, s'insultent, se coursent. Et c'est par amour pour sa ville natale qu'il décide d'écrire son recueil en dialecte napolitain. Cela donne un langage très imagé, fantasque et souvent intraduisible. C'est sans doute pour cette raison que son recueil intitulé « Le conte des contes » a eu beaucoup de mal à être diffusé. Il ne sera publié pour la première fois que 40 ans plus tard, à titre posthume. C'est sa sœur qui le fera publier. Elle lui donnera alors un autre nom. Le conte des contes devient le Pentameron, ce qui signifie en grec « les cinq jours ». Pourquoi ce nouveau titre ? Parce que d'une part, il renvoie au Décaméron de Boccace. C'est prestigieux, n'est-ce pas ? Mais surtout parce que l'histoire dans laquelle se racontent les 49 contes du recueil se déroule en 5 jours. Je m'explique, le livre s'ouvre sur un récit qui présente pourquoi 10 conteuses viennent raconter à une princesse une histoire chacune, chaque jour, pendant 5 jours. Cela fait bien 50 contes. La première histoire, celle du départ, est elle aussi un conte, et l'aboutissement ne sera révélé qu'après les 49 autres contes qu'elle introduit. C'est cette première histoire que j'ai choisi de vous lire. Cette histoire à l'intérieur de laquelle sont emboîtées toutes les autres histoires. Voici donc une traduction libre du texte intégral de cette première histoire, du conte des contes de Giambattista Basile. Ce récit cadre s'intitule « Comment les contes en vinrent à être racontés ». Il y a un vieux dicton qui dit que celui qui cherche ce qu'il ne devrait pas trouve ce qu'il ne voudrait pas. Tout le monde a entendu parler du singe qui, en essayant de mettre ses bottes, s'est fait attraper par les pieds. C'est ce qui arriva à une misérable esclave, qui, bien qu'elle n'ait jamais eu de chaussures à ses pieds, voulut porter une couronne sur sa tête. Oh, la route droite est toujours la meilleure, et tôt ou tard arrive le jour où tous les comptes sont rendus. La misérable esclave fut bien mal inspirée en usurpant ce qui appartenait à une autre. Si bien qu'un jour, quand la vérité éclata, la voleuse dégringola, et comme elle était montée très haut, sa chute fut d'autant plus terrible. C'est cette histoire que je vais vous raconter. « Il était une fois, dans le royaume de la vallée velue, une princesse prénommée Dzodza. La princesse Dzodza ne riait jamais. De toute son existence, on ne l'avait jamais vue rire. Son malheureux père, le roi, qui n'avait d'autre réconfort dans la vie que cette fille unique, cherchait par tous les moyens à chasser son invariable mélancolie. Pour cela, il envoya chercher des gens qui marchaient sur des échasses, d'autres qui sautaient à travers des cerceaux, des boxeurs, des magiciens, des jongleurs qui exécutent des tours de passe-passe, des hommes géants, des chiens qui dansent, des clowns qui bondissent, un âne qui boit dans un gobelet. Bref, il essaya mille et une choses pour la faire rire, mais c'était peine perdue. Jamais on ne vit le moindre sourire à ses lèvres. À la fin, le pauvre père, à court d'idées, tenta un dernier stratagème. Il ordonna qu'une grande fontaine d'huile soit installée devant les portes du palais. Lorsque l'huile s'écoulerait dans la rue, les passants, aussi nombreux qu'une troupe de fourmis, seraient obligés, pour ne pas salir leurs vêtements, de sauter comme des sauterelles, de bondir comme des chèvres et de courir comme des lièvres. Il espérait qu'au milieu de ces gesticulations, quelque chose arriverait qui fasse rire sa fille. La fontaine fut donc construite, et un jour que Dzodza se tenait à la fenêtre, une vieille femme recueillait l'huile avec une éponge pour remplir un petit pichet. Tandis qu'elle travaillait dur à cette tâche, un jeune page passa par là, trébucha sur une pierre qui fut projetée sur la tête de la vieille femme, rebondit très exactement sur son pichet et le brisa en mille morceaux. Alors, la vieille femme, qui n'avait pas la langue dans sa poche, se tourna vers le page et, rouge de colère, elle s'écria « Jeune sagouin, mulet, pandard, faquin, maudit sois-tu » Surpris par cette avalanche d'injures, le garçon rétorqua du tac au tac. « Vilaine gaupe, sorcière, vieille mégère, étrangleuse d'enfants !» À ces mots, la vieille femme devint comme folle, sautillant sur place, lançant tour à tour les bras et les jambes en l'air et par moments s'immobilisant tout à coup en souriant comme un singe. À cet étrange spectacle, Dzodza éclata de rire. Elle rit si fort qu'elle s'évanouit presque. Mais quand la vieille femme s'aperçut qu'on se moquait d'elle, elle s'arrêta net, se retourna et, lançant un regard féroce sur Dzodza, elle lui dit « Vous, vous n'aurez jamais le moindre petit mari, à moins que vous ne preniez le prince de la ronde prairie. » Entendant cela, Dzodza fit appeler la vieille femme en son palais, désirant savoir si elle lui avait jeté une malédiction ou si elle avait seulement voulu l'insulter. La vieille femme répondit « Sachez que le prince de la ronde prairie est une très belle créature. Il s'appelle Taddeo et, par le sortilège d'une fée, il a été placé dans un tombeau à l'extérieur des murs de la ville. » Il y a une inscription sur sa pierre tombale disant que toute femme qui remplira de larmes en 3 jours le pichet qui s'y trouve accroché rendra la vie au prince et le prendra pour mari. Mais il est impossible à 2 yeux humains de pleurer au point de remplir un pichet gros comme un demi-baril. Eh bien, c'est ce à quoi je vous défie, chère damoiselle, en échange de vos rires et de vos moqueries. J'espère pour vous que vous saurez y arriver, car il n'en faudra pas moins pour venger le tort que vous m'avez fait. » Et disant cela, la vieille femme se précipita dans les escaliers de peur d'être battue. Dzodza réfléchit aux paroles de la vieille femme, et après avoir tourné 100 de pensées dans son esprit jusqu'à ce que sa tête soit comme un moulin plein de doutes, elle fut frappée par une flambée de passion pour ce prince. Elle prit une poignée d'écus dans les coffres de son père et quitta le palais. Elle marcha, marcha longtemps. Elle arriva enfin à un château. C'était le château d'une fée. Elle y fut accueillie de bon cœur, car c'était là une bonne fée. Zozza lui raconta son histoire, et la fée fut émue par une si belle jeune fille qui avait entrepris un si périlleux voyage avec pour simple bagage son amour pour un inconnu. La bonne fée l'envoya chez ses trois sœurs, qui lui donnèrent une noix, une châtaigne et une noisette, avec la recommandation de ne les ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. C'est ainsi équipée que Zozza partit pour son grand voyage. Elle traversa tant de forêts et de rivières qu'au bout de 7 ans, elle arriva presque boiteuse au royaume de la Ronde Prairie. Là, à l'entrée de la ville, elle trouva une tombe de marbre blanc, au pied d'une fontaine d'où s'échappaient des larmes de cristal qui semblaient surgir d'une prison de porphyre. Zozza décrocha le pichet et le plaça sur ses genoux. Elle commença à pleurer. Pleurer comme la fontaine de porphyre. Elle pleura ainsi, sans relâche, sans jamais relever la tête, pendant 2 jours entiers. Le pichet était à moins de 2 pouces du bord lorsque Zozza, fatiguée de tant de larmes, sombra dans le sommeil et s'endormit. Pendant ce temps, une esclave mauresque aux jambes de sauterelle était venue à la fontaine, comme d'habitude, pour remplir sa cruche d'eau. Lorsqu'elle aperçut Zozza en train de pleurer, elle se cacha pour observer la scène. Enfin, elle comprenait le sens de cette fontaine dont on parlait partout. Dès qu'elle vit Zozza s'endormir, elle saisit sa chance. Elle s'approcha et avec 1000 précautions, elle retira adroitement le pichet de ses mains et le plaça sous ses propres yeux. En 4 secondes, le pichet fut plein. C'est alors que le prince se leva de son sanctuaire de marbre blanc, comme revenu d'un sommeil profond. Il embrassa l'esclave et la conduisit à son palais. Il y eut des fêtes et des illuminations féeriques pour fêter son retour et célébrer son mariage. Lorsque Zozza se réveilla, le pichet avait disparu et tous ses espoirs s'étaient envolés avec lui. À la vue du tombeau ouvert et vide, son cœur devint si lourd qu'elle était prête à se présenter au bureau de la mort. Elle se traîna jusqu'à la ville. Elle s'installa dans une maison face au palais du prince. À défaut de voir l'idole de son cœur, elle pourrait ainsi au moins regarder les murs où il était enfermé. Le prince Taddeo, qui voletait constamment autour de son esclave comme une chauve-souris autour de la nuit, aperçut un jour Zozza par la fenêtre et fut complètement fasciné par sa beauté. Lorsque l'esclave s'en aperçut, elle devint comme folle et elle jura que si Taddeo ne quittait pas la fenêtre, elle tuerait son bébé à la naissance. Taddeo, qui désirait anxieusement un héritier, eut peur d'offenser sa femme et s'arracha à la vue de Zozza. La pauvre Zozza perdait ainsi son dernier soupçon d'espoir. C'est alors qu'elle se remémora les cadeaux des fées. Elle ouvrit d'abord la noix et il en sortit un nain, petit comme une poupée. C'était le jouet le plus gracieux qu'on ait jamais vu au monde. Le nain s'assit sur la fenêtre et se mit à chanter avec un tel trillet gargouillis qu'on aurait dit le roi des oiseaux. Lorsque l'esclave entendit ce chant, elle appela Taddeo et lui dit « Apportez-moi le petit gars qui chante là-bas, ou je tuerai l'enfant à sa naissance. » Le prince envoya immédiatement son serviteur chez Zozza pour lui demander d'acheter le nain chanteur. Ce à quoi Zozza répondit qu'il n'était pas à vendre, mais qu'elle était disposée à le lui offrir en cadeau. 4 jours plus tard, Zozza ouvrit la châtaigne. Il en sortit une poule avec 12 petits poussins, tous en or pur. Elle les plaça sur la fenêtre et quand l'esclave les vit, elle s'enthousiasma et appela Taddeo. À nouveau, elle ordonna de lui apporter la poule et les poussins sous peine de tuer le bébé à la naissance. Alors, Taddeo envoya son serviteur chez Zozza qui lui proposa à nouveau de lui offrir. 4 jours plus tard, Zozza ouvrit la noisette et il en sortit une poupée qui parlait de l'or. Un spectacle étonnant. Dès qu'elle fut placée à la même fenêtre, l'esclave appela Taddeo en criant « Je veux cette poupée, sinon je tuerai l'enfant !» Taddeo, qui laissait jusque-là sa fière épouse le balader comme une navette, décida de se rendre lui-même chez Zozza. Il commença par lui demander pardon pour son impertinence due aux caprices de sa femme. Et Zozza, qui était ravie d'entendre la cause de son chagrin, lui donna la poupée, comme elle avait donné les autres présents. Mais avant de la lui remettre, elle pria la petite poupée d'insuffler au cœur de l'esclave le désir qu'on lui raconte des histoires. Taddeo fut tellement touché qu'en échange de ce cadeau, il décida de lui offrir son royaume et sa vie. De retour dans son palais, il remit la poupée entre les mains de sa femme qui instantanément fut prise du désir d'entendre des histoires. Ce désir était si fort qu'elle appela aussitôt Taddeo en criant « Demandez à des conteuses de venir me raconter des histoires, ou je vous jure que je tuerai l'enfant. » Dans le royaume, les conteuses étaient nombreuses. C'étaient de vieilles femmes, difformes, des femmes de mauvaise vie. On n'avait jamais vu telle racaille aux abords du palais. Taddeo en choisit 10 et les fit entrer dans le jardin. Il y avait Zezza, la bancale, Tchèka, la tordue, Meneka, la goitreuse, Tolla au gros nez, Pop à la bossue, Antonella, la barbue, Tiula aux grosses lèvres, Paola, la teigneuse, Civonmetel, les chevelés et la Cova aux épaules carrées. Il nota leurs noms sur une feuille de papier et renvoya les autres. Puis il les installa sous un treillis de vigne, au milieu duquel chantait une fontaine, et leur dit « Rien au monde n'est plus important, mes douces dames, que d'écouter les actes des autres. Ce n'est pas sans raison que le grand Créateur a placé parmi les plus éminents bonheurs de l'homme celui d'écouter de belles histoires. Les chagrins s'évanouissent, les soucis s'envolent et la vie s'allonge. » Écouter des histoires, c'est oublier le reste et tout réparer en ouvrant une bouche bée. Vous raconterez tour à tour, tous les jours, au cours des 4 ou 5 prochains jours, l'un des contes que ces vieilles femmes ont coutume de raconter aux tout-petits, afin que le temps soit agréable à ceux qui vivent et le chagrin à ceux qui meurent. À ces mots, toutes s'inclinèrent. Et pendant que les tables étaient dressées et que, pour la fête, le coup d'envoi était donné, elles s'assirent et, à tour de rôle, elles prirent la parole. Ainsi commence la longue série d'histoires que les vieilles conteuses racontèrent à la princesse capricieuse. Nous y trouvons des versions où la belle au bois dormant s'appelle Talia et porte des jumeaux après avoir été violée. Nous y trouvons Cendrillon sous le nom de Zezzola, bien moins mijaurée que celle que nous connaissons. Nous retrouvons aussi le chat beauté, Peau-d'âne, Blanche-Neige et bien d'autres. Il va sans dire que le tout dernier des 49 contes fera basculer le destin du royaume entier. Mais c'est là une autre histoire.